On pense parfois que l'exploitation sexuelle, c'est pas quelque chose qui se passe ici, que ça se passe ailleurs. Oui, c'est vrai, c'est un fléau à bien des endroits, entre autres dans le reste du Canada, on le sait, mais ça se passe aussi ici et peut-être plus près que vous pensez de votre maison. Entre autres, à Longueuil, à tel point que le service de police de l'agglomération de Longueuil a même décidé de mettre sur pied, il y a 3 mois, une nouvelle escouade pour venir en aide aux victimes. Et je vais vous demander, j'en profite pour vous demander, si vous avez des ados, est-ce que c'est un enjeu pour vous? Est-ce que c'est une inquiétude? Avez-vous peur que votre enfant, que votre jeune, puis je disais ado, mais je corrige en disant enfant, parce qu'on apprend que ça peut commencer aussi jeune que 11-12 ans. L'âge moyen, c'est 14 ans pour tomber dans les mains d'un proxénète. 14 ans. Alors, je pense qu'il n'y a aucune famille qui est vraiment à l'abri de ça. Ça se voit dans tous les milieux. Je vais vous présenter tout de suite mes invités là-dessus. Ghislain Vallière, qui est l'instigateur du projet pour contrer l'exploitation sexuelle. Il est policier au service de police de l'agglomération de Longueuil. Merci d'être là, Ghislain.
Ça fait plaisir.
Joëlle Safadi est coordonnatrice responsable du volet psychosocial à la police de Longueuil. Elle est criminologue. Merci, Joëlle, d'être là. Vous avez décidé de créer ça, Ghislain Vallière. C'est vous qui avez lancé ça parce que vous disiez, voyons, c'est un problème important dans votre coin à Longueuil.
Bien, c'est pas seulement sur le territoire de l'agglomération qu'on l'a. On le voit à travers le Canada, même l'Amérique du Nord. Par contre, je vous dirais qu'on a développé une bonne sensibilité depuis 2007-2008. On a toujours essayé d'améliorer à chaque fois qu'on avait une nouvelle subvention, un nouveau financement, nos approches. Ce qu'on a réalisé, c'est que l'approche policière peut aller jusqu'à une certaine limite au niveau de l'intervention. Là, il nous fallait aller ailleurs. Et au cœur de toute l'exploitation sexuelle, c'est la femme. Et la femme se retrouvait souvent sans ressources, dépassée l'âge de 18 ans. Il y en a des ressources, mais elles sont peut-être difficilement accessibles compte tenu de leur réalité. Mm. Elles travaillent de nuit, c'est en urgence qu'elles ont besoin de traitement. Et là, on voulait pallier à ça. Et on s'est dit, ben, on n'attendra pas que ça vienne de personne d'autre que de nous, on va le prendre en main puis on va proposer à nos partenaires de nous suivre là-dedans. Et on a une excellente réponse des partenaires, des CI3S, également des endroits d'hébergement, exemple à clé, qui ont l'expertise au niveau de l'approche, au niveau des statistiques. Qu'est-ce que le vrai portait de l'exploitation sexuelle? Ouais. Qui sont les clients derrière l'exploitation sexuelle aussi?
Oui,
donc, c'est
plus,
l'ensemble de tout ça qui nous a amené à dire, ben allons-y, prenons-le, mais pas tout seul, parce que la police, c'est pas vrai qu'elle va réussir à contrer tous ces éléments-là de la prostitution tout seul. Il y a 3 éléments. Il y a le proxénète, il y a le client et il y a la fille. Et là, on a la chance maintenant, avec ce financement qui nous a été accordé pour les 5 prochaines années, d'avoir la présence de Joëlle, qui a une expertise que nous n'avons pas à l'intérieur de notre formation de policier.
Oui, mais sur le territoire de Longueuil, vous évaluez qu'il y a combien de filles qui se livrent à la prostitution? Combien il y a de proxénètes?
On a environ 100 de jeunes filles et de jeunes femmes qui seraient aux prises avec soit des problèmes de recrutement, à risque de l'être ou exploitées. Pour ce qui est des proxénètes, on compte 30 d'individus qui sont soupçonnés d'agir à titre de pourvoyeur au niveau de ces jeunes filles-là.
Puis quand on pense qu'un proxénète ou qu'un jeune en émergence, de le devenir, je veux dire, fait travailler en moyenne 5 à 7 filles pour lui, c'est exponentiel le nombre de victimes, effectivement, qui sont exposés à être exploités.
Votre projet, je disais tout à l'heure que ce qu'on sait, c'est que l'âge moyen d'entrer dans la prostitution, c'est à peu près 14 ans et demi, mais que ça peut commencer à 11-12 ans. En fait, parlez-moi un peu de... Est-ce qu'on sait s'il y a un portrait type de la jeune fille qui tombe dans les mains d'un proxénète? On a toujours cette impression... justement, que la jeune fille est exploitée, qu'elle est manipulée, qu'elle est tenue, donc qu'elle est forcée. Mais ce qu'on voit aussi de plus en plus, c'est des jeunes filles attirées par ce milieu.
Je vous dirais que faut faire attention, effectivement, au niveau des préjugés puis de la stigmatisation, parce que des portraits types, il n'y en a pas. Il y a par contre, effectivement, des jeunes filles ou des jeunes femmes en devenir, je veux dire, qui ont une histoire de vie qui vont les rendre plus vulnérables, effectivement, à basculer, si je peux dire, dans le monde de l'industrie du sexe. Mais il y a par contre, aujourd'hui, des nouvelles catégories qui ont tendance à poindre.
Comme
là,
par exemple?
Qui sont comme des jeunes filles qui viennent de classes sociales moyennes, de très bonne éducation, quoi que ce soit, qui sont attirées par ce milieu-là, au niveau de ce qu'on peut considérer comme l'appât du gain.
Ouais.
Être habillée au dernier cri, avoir, je veux dire, un look, une apparence, ce qui est un peu... avoir une apparence plus... plus mondaine, hein? Que ce soit au niveau de l'accessoire, que ce soit au niveau des ongles, de la coiffure, des vêtements griffés, etc. Puis qui vont y aller, là, comme on les appelle les aventureuses, pour effectivement tâter le terrain, faire partie des gros parties loft, mais ne sachant pas toujours ce qui les attend au niveau de la... Comment on peut dire, de la
l'aboutissement, ouais, c'est
ça. De la dégringolade au niveau de la violence qu'elles vont vivre, plus elles vont s'enfoncer dans ce crime. C'est un crime aujourd'hui, ouais. L'exploitation sexuelle.
Justement, j'ai des images en tête de la série Fugueuse, là, mm-hmm. qui, puis j'en avais parlé avec des jeunes qui disaient, ben oui, mais au début, ça peut être tentant, parce qu'au début, tu vois que le bon côté des choses. Justement, tu vois le sac Vuitton, le champagne qui coule à flot, les vacances au soleil, les voitures. Il y a quelque chose là-dedans d'extrêmement superficiel aussi, mais qui est une réalité. Non?
Oui, puis la réalité, lorsqu'elle arrive, elle frappe fort.
Ouais.
Elle frappe avec violence. C'est des agressions. On parle de traumatismes qui vont rester pour le restant de leur vie. Donc, la réalité les rattrape assez vite. La question qui serait peut-être sous-jacente à tout ça, c'est pourquoi maintenant, ouais. le phénomène de ces nouvelles jeunes filles qu'expliquait Joël, qui n'avaient pas de facteur de risque assez fort normalement pour les attirer vers l'exploitation sexuelle, qu'est-ce qui maintenant, ben, c'est la banalisation de la sexualité, c'est l'industrie du sexe qui est omniprésente et ça a le même une influence sur le client aussi.
C'est-à-dire
que les clients, ce qu'on s'aperçoit, c'est plus jeunes, donc à l'âge collégial, plus ils vont consommer quotidiennement de la pornographie sur le web, et sur une échelle de 5 ans, risquent de basculer vers devenir client.
Ah oui. Oui. Les jeunes gars, donc, ils peuvent être plus enclins à devenir proxénètes, à dire, ben, why not? Après tout, c'est une job comme un autre, finalement.
Et c'est payant.
Et c'est payant. C'est excessif.
Mais l'argent payant. Est central, alors, dans ce que vous me dites. Là.
Mon Dieu, l'argent est un déterminant tout. Majeur oui. au niveau du, si je peux dire, le pimp, qui veut dire le put money in my pocket. OK? C'est un déterminant. On parle de 200 000 par année là, à faire travailler une fille, qu'elle soit mineure ou majeure. Là. Fait que quand vous calculez, je veux dire.
Si t'en as 5, ça te fait un petit million.
Ben voilà. Et elles n'ont rien de
Claire,
ça. Elles
Claire
n'ont
d'impôt.
Rien. Elles n'ont rien.
Donc, l'argent, c'est pour le proxénète. L'argent aussi, c'est la fille, parce que la fille, à un moment donné, va avoir besoin de consommer pour que son corps puisse supporter toute cette souffrance-là. Tu ne peux pas avoir 12-15 clients par jour sans t'engourdir. Et je reprends le terme qu'ils nous disent souvent, s'engourdir le corps.
Alors, et vous dites ça, carrément?
Oui.
Le terme, je m'engourdis, je veux juste pas...
Certaines plus âgées qui vont effectivement, là, lors de trauma ou de fragilité extrême, elles ont conscience de ce qui se passe, là, qu'elles sont en train de se faire embourber
solide,
à
ouais.
tout prix, mm-hmm. si je peux dire. Elles vont effectivement dire les propos de Ghislain ou dire carrément, j'ai perdu mon identité. Je ne sais même plus qui je suis, je dois couper. Ouais. entre ce que je croyais être puis ce que je suis réellement. La protection devient de plus en plus là, monumentale.
Mais
là.
Ce que vous me décrivez, là, c'est, pardon, c'est fort là, c'est, et c'est puissant puis c'est bien ancré. Puis quand on parle de banalisation de la sexualité, Ghislain, je pense que vous avez raison, Ghislain Vallière, de le dire. Je veux vous entendre sur, entre autres, les sextos, l'article de Vrac sur le site de Vrac où, qui a été tout de suite décrié par les réseaux sociaux. Il y a des gens qui ont vu ça, des parents, entre autres, où on a... C'est genre d'article léger qu'on trouve sur plein de sites. Moi, je suis contente que ça soit sorti puis que ça fasse réagir les gens. Parce que moi, quand je vois ce que les jeunes filles lisent ou ont à se mettre sous la dent, là, c'est tellement pauvre. Et c'est tellement toujours des histoires d'amour où il faut qu'elles se donnent à un gars, où c'est tout le temps. Puis s'il n'y a pas de gars, leur vie est finie. Puis moi, j'ai des filles, ça m'arrache les cheveux de la tête. Est-ce qu'on peut arrêter de dire aux filles « Sois cute, sois belle, maquille-toi, habille-toi comme c'est tout » parce que ça finit par leur rentrer dans le système. Après ça, on va dire « Mais oui, mais garde. » Mais c'est difficile de lutter contre ça. Ce que Vrac, sur le site de Vrac, là, on disait même, il y a des phrases choquantes là-dedans, là, où on disait « C'est sûr qu'être nu, là, je paraphrase, c'est sûr qu'être nu, des fois, tu peux être inconfortable puis tu veux pas que tes parents te voient. » Ben non, c'est sûr. T'sais. Quand vous... J'aimerais vous entendre là-dessus. Là.
Ben moi, je vous dirais, puis Ghislain, après, je te laisse parler. Là. C'est sûr que tout, je corrobore exponentiellement. Là. Vous me voyez avec vous, mais...
c'est fâchant, là.
Ça prend pas juste une volonté ouais. Citoyenne. Hein. Je veux dire, ça prend là, plusieurs paliers de volonté pour effectivement amener vers un changement de banalisation, comme tu le disais, autant au niveau des médias, Hein, je veux dire, on spread out, là, excusez mon anglicisme, là, la plus-value de se montrer de plus en plus, je veux dire, nu, d'une volonté, là, c'est ça, autant au niveau de l'information, au niveau politique, pour tenter effectivement que tout le monde comprenne le même message, que là-dedans, je veux dire, il y a une ligne qu'on franchit de plus en plus loin au détriment de l'humain. C'est tout, Micheline.
Nous, on a vu le phénomène émerger aux alentours de 2008-2009. Pour réagir à ça, nous, on a revu tout notre programme de prévention parce qu'on s'apercevait qu'on débarquait, faisait une présentation de 45 minutes, puis on quittait après sans savoir est-ce qu'on avait eu un impact. Mm-hmm. Il nous fallait changer quelque chose chez l'individu qui est l'adolescent qui était devant nous. Il fallait partager des connaissances, mais aussi arriver avec des compétences. Compétences de savoir dire non, de savoir reconnaître ses limites, puis de les imposer, ses limites. Et c'est là qu'en secondaire 2, on traite justement de cet aspect-là. De dire, premièrement, c'est un acte criminel. Tu n'as pas le droit de posséder des images d'une adolescente ou d'un adolescent qui est nu ou partiellement nu. Deuxièmement, tu n'as pas le droit de le produire, donc de le filmer. Ça, c'est interdit. Puis tu n'as pas le droit non plus de le mettre sur le web. Donc, d'en faire la distribution. Tout ça, c'est des actes criminels. Puis nous, on voulait protéger nos jeunes qui, naïvement, innocemment, souvent le font dans un contexte amoureux d'intimité d'adolescent, sans mesurer tout l'impact que ça a.
Ouais.
Alors, à ce moment-là, nous, on l'a... Et ça a apporté des fruits. Mm. Ça a eu du positif, ça.
Vous allez, d'ailleurs, on va continuer là-dessus. Vous allez nous dire de quelle façon ça porte fruit et jusqu'à quel point ça peut effectivement aider à un peu freiner cet enjeu-là, l'exploitation sexuelle de nos jeunes. C'est important. Je pense que ça touche un peu tout le monde, et en particulier des parents de jeunes, d'enfants, d'ados. Dites-moi si ça vous inquiète que votre jeune tombe dans les mains d'un proxénète ou soit tenté par l'argent facile. On ne sait pas ce qui se passe toujours dans la tête de nos jeunes. Puis même si, tu sais, on essaye de garder le canal de communication ouvert, mais des fois, les parents, à un moment donné, à un certain âge, on n'est plus les premiers sur la ligne. Il y a les amis, il y a le milieu. Il y a beaucoup de choses qui nous échappent parce qu'on ne le sait pas puis qu'on ne peut pas contrôler. Dites-moi si ça vous inquiète. 514-790-9850. 1-866, c'est sans frais pour nous joindre. 1-866-790-9850. À tout de suite. On parle à Chantal qui a déjà travaillé dans ce domaine-là. Donc, bonjour Chantal. On parle de proxénétisme, de prostitution. Expliquez-moi un peu ce que vous faisiez.
Moi, c'est sûr que j'étais pas vraiment au niveau de la prostitution, c'était plus au niveau des bars de danseuses. Des fois, oui, on avait des clients qu'on allait voir à l'extérieur, mais souvent, les clients, ils payaient surtout pour de l'affection, de la compagnie, je dirais.
Mm-hmm.
Ça a vraiment été plus le côté, j'aimais ça quand vous parliez du luxe, quand tu viens d'une famille moyenne à bon niveau, puis là, t'es dans la jeune vingtaine, puis tu vas avoir tes trucs, mais tu travailles à un salaire minimum, puis là, tu réussis à te faire embarquer comme ça par un gars qui tombe en amour, puis que tu vois qu'il t'achète des trucs ici et là, puis qu'il y a une autre manière d'avoir des sous plus que de travailler au salaire minimum. Là.
C'est sûr que travailler au salaire minimum, c'est jamais tentant pour personne. En même temps, est-ce que, de ce que vous en connaissez, est-ce que ça prend toujours un gars avec qui la fille tombe en amour, puis qui l'amène vers l'argent plus facile à gagner?
Je te dirais que... C'est souvent la grande partie, la plupart du temps, ouais. C'est souvent ça. C'est l'influence par quelqu'un ou qui va vous présenter des filles qui sont déjà là-dedans. Puis là, tu vois leur rythme de vie, puis tu te fais un peu influencer comme ça au début.
Êtes-vous toujours dans ce milieu-là, Chantal?
C'est ça, je trouvais ça important de dire comment c'est dur de décrocher par la vie, comment qu'elle est faite et tout. Puis on finit toujours à avoir des petites dettes ici et là. Maintenant, je travaille, j'ai un emploi régulier. Mais même si je suis dans la jeune trentaine, ça m'empêche pas des fois de vouloir aller essayer de faire un peu de sous pour ma fin de mois ou des trucs comme ça. Maintenant, je le fais par moi-même.
Un peu de sous comme prostituée?
Dans un bar de danseuse. Je vais pas jusqu'à me prostituer.
Vous faites pas de danse à 10 ou de...
C'est des danses contact. Moi, ouais. C'est sûr, je vois pas ça comme de la prostitution. Donc, il n'y a aucune relation sexuelle.
Mais les gars peuvent vous toucher, par exemple, non?
Ils peuvent nous toucher, mais pas à nos parties intimes. Là.
OK. Mais ouais. Le genou, mettons que c'est moins intéressant là, pour le gars.
Il y en a qui aiment ça, nous toucher les jambes. Il y en a qui ont toutes sortes d'attirances sexuelles. Il y en a qui sont là à masser les pieds, puis c'est ce qu'ils aiment faire. Puis moi, pendant ce temps-là, je suis payée à 20 $ la danse à me faire masser les pieds. Donc.
Puis ça dure combien de temps? Ça dure 3-4 minutes, une danse contact, c'est
exactement,
ça?
Exactement,
ouais.
Ouais. Fait que c'est ça, je voulais dire comment c'était dur de s'en sortir, puis même si on veut avoir une vie normale, travailler, même si je suis célibataire, mais ça m'empêche pas des fois de vouloir aller.
Je comprends. Merci beaucoup, Chantal. Merci beaucoup. C'est intéressant ce que nous dit Chantal, c'est que là, on le sent, ce que vous disiez tout à l'heure, Joël, l'appât du gain, l'argent facile. Joël Safadi, vous allez, vous, rencontrer des jeunes filles qui vont peut-être aller vers ça. Comment, c'est quoi votre argument? Parce que c'est dur. Tu sais, on entend Chantal, puis elle dit, tu sais, 20$ aux 3-4 minutes, ça dure une toune, bof. Tu sais, dans le fond, c'est pas de la prostitution. Là. Puis on comprend que dans son cas, là, on peut toujours débattre de ça, mais pour une fille qui accepterait, tu sais, une fellation, dans le fond, là, en général, les gars viennent vite, tu sais, vite fait, bien fait, aïe hop, next. Il y en a beaucoup qui pensent comme ça.
Oui, je vous dirais que de partir à partir d'un argument, c'est la dernière chose que je voudrais faire au niveau des femmes et des filles, je veux dire, qui ont envie de ma présence, en fait, pour pouvoir discuter. Hein, le chemin critique, la pensée, je veux dire, c'est au rythme de chaque individu selon, effectivement, le bagage qu'il porte. Mais de répondre à leurs besoins, de répondre à leurs préoccupations pour les aider elles-mêmes à avoir, effectivement, à développer, s'il y a lieu, une pensée critique pour dire, effectivement, où elles en sont dans leur vie. Hors choix ou par choix, ce serait aussi à débattre. C'est pas, c'est vers ça que le projet prévoit les amener.
Fait que Joël et Ghislaine, ce que ça veut dire, c'est que votre intervention va être beaucoup sur le terrain. Vous dites, on est là, venez nous parler si ça vous tente. C'est une approche très comme ça. Là,
mais c'est une base volontaire parce qu'on ne peut pas les forcer. De toute façon, en forçant les individus, on est à contre-courant d'emblée. Hein?
Ça veut dire qu'il y a déjà un travail de fait dans leur tête un peu.
Ben c'est sûr qu'à partir du moment où je peux avoir, le projet vient de commencer, où je peux avoir, puis l'équipe aussi avec laquelle je travaille, du SPAL, du service de police, si je peux avoir un premier contact, parce que la méfiance est énorme, c'est un service de police.
Oui, c'est ça.
Je n'ai pas le costume non plus, mais dès que j'ai contact téléphonique en ce moment, là, je veux dire, la méfiance, là, elle transpire à travers le compte du téléphone. Fait qu'à partir du moment où cette méfiance-là qui prend du temps à tomber, puis on verra au cours du projet si elle peut tomber la méfiance, puis que la fille sache que les femmes, même les garçons, il y en a de la position dans l'univers masculin, le taux est moins élevé, là, mais puissent savoir qu'il y a une figure de référence pour pouvoir effectivement, là, sur qui pouvoir compter quand eux vont prendre une décision, qu'importe la décision, ça peut être en réduction des méfaits aussi, qu'il y a quelqu'un qui est là pour répondre à comment ça va aujourd'hui.
Et c'est pour ça que je voulais vraiment parler de votre projet. Ben, je trouve ça fascinant et très intéressant. Et Ghislaine Vallière, vous êtes policier, l'instigateur de ce projet, donc pour contrer l'exploitation sexuelle sur le territoire de l'agglomération de Longueuil. Peut-être que comme la psychologie, c'est dans votre famille quand même.
Un petit peu, oui.
Vous êtes le frère de la psychologue Suzanne Vallière, qu'on connaît bien, que ces petits trucs. C'est intéressant de voir que la police, je veux dire, il y a des bonnes polices, là, faut le dire, en général. Les policiers veulent avoir
une...
Il y a plein de bonnes policiers, c'est exactement.
Oui, parce que ce projet-là, c'est pas écrit tout seul.
Voilà, c'est ça.
J'ai peut-être eu quelques idées à un moment donné, mais il a fallu que je les partage. Il y a plein de gens m'ont nourri au sein du service de police, de renseignement criminel. Il a fallu que l'état-major accepte de me faire confiance là-dedans aussi, puis me dégager le temps que ça a pris pour écrire ça. Mais pour répondre à la question de la dame qui disait « c'est un 20$ fait assez rapidement », voyez-vous, c'est peut-être là que notre projet est intéressant, puis qu'il y a peut-être plus justement des gens comme Joël initialement, quand on en a parlé, c'est de dire « écoutez, on ne fera pas que faire de la police. Le judiciaire, le légal, on verra beaucoup plus tard parce que ce qui est un besoin, le premier besoin qu'elles ont, c'est un besoin d'argent. C'est impératif. Mmh. Ça revient toujours, ça, l'argent.
Le premier besoin.
Et là, elle, peut-être qu'elle n'a pas sa diplomation pour aller chercher un travail qui lui offrirait justement une qualité de vie acceptable. Mmh. Moi, j'ai déjà une intervenante me disait, oui, mais c'est un choix de carrière. Moi, je suis pas certain, mais je veux pas embarquer dans le débat, mais une chose est certaine, c'est que si je t'offre comme femme, un salaire de 50 000 $ avec des congés, une protection dentaire, etc., est-ce que vraiment tu vas continuer à faire ce que tu fais? Et souvent, la réponse, c'est bien là, c'est sûr que non. Et voilà. Donc, c'est un manque de choix que les femmes ont. Ouais. Et là, on se retrouve encore dans un contexte d'inégalité. Et il faut pallier à ce problème-là. Et le projet essaie de t'offrir de l'éducation. T'as peut-être pas terminé ton secondaire. On va te faciliter ça parce que c'est peut-être difficile avec un problème de toxicomanie, de ITS, d'estime de soi parce qu'on vit des chocs post-traumatiques avec l'exploitation sexuelle. C'est plein de problèmes à traiter en même temps. Mm. Nous, on a la chance d'avoir plein de partenaires qui vont le faire.
Je trouve ça fort intéressant. J'aurais aimé qu'on parle plus longuement des clients, mais vite, c'est qui les clients?
C'est des gens...
Pas de client, pas de prostituée, là.
Pas de prox, pas de client. Regarde, on vient vraiment donner un bon coup d'alcool.
C'est qui le client, là?
C'est un homme d'environ 40-45 ans d'âge moyen. Ça peut aller jusqu'à 70, de 22 à 75 ans environ. Mais la moyenne, c'est dans la quarantaine. Professionnel, col blanc, assez éduqué.
Baiser des mineurs, ça les dérange pas?
Mais on peut même, je pense qu'il doit, mais bon, réponse, on peut pas parler serait... pour eux, mais quand Ghislain en fait la description, on se doit aussi d'ajouter que ce sont des hommes mariés.
Oui.
Wow.
Dans ce
qui ont peut-être des filles de cet âge-là.
Oui, exactement.
Plus de la moitié des hommes qui consomment la prostitution sont
des
mariés.
Hommes mariés.
Donc, il y a des leviers à aller chercher là pour nous, la police, là. Wow. On peut aller travailler là-dessus. Puis ça, c'est un volet qu'on va traiter. Dans le projet, c'est adressé, mais on a des stratégies vraiment intéressantes. Puis quand on va les mettre sur le plancher, on va venir vous l'expliquer parce qu'il y a vraiment des choses très, très intéressantes pour nous.
Merci à tous les deux. Ghislain Vallière du service de police de l'agglomération de Longueuil, instigateur de ce projet pour contrer l'exploitation sexuelle. Joëlle Safady est criminologue. Elle est coordonnatrice responsable du volet psychosocial au service de police de Longueuil. Merci beaucoup. C'est vraiment
Merci
très intéressant.
Vous.
On va suivre ce projet-là. Vraiment, j'en fais la promesse à nos auditeurs. On va avoir l'occasion de reparler de ça grâce à vous. Merci
on
beaucoup,
viendra.
Beaucoup, beaucoup. On va parler de voyage hors des sentiers battus tout de suite après. Vaut mieux savoir où est-ce qu'on s'en va pour éviter de se faire organiser. Des trucs et conseils tout de suite après.